Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode! Lundi après-midi, entre deux préparations d'émissions pour cette semaine de rentrée, je m'accordais quelques minutes de pause pour m'aérer l'esprit. En déroulant le fil de mon téléphone, j'aperçus la dernière publication de mon père postée le matin même. Une sorte d'hommage qu'il rend annuellement à son idole de toujours, David Bowie, décédé exactement 8 ans plus tôt. Au même moment, mon attention fut interrompue par une vibration de mon téléphone. L'info est tombée. Comme un symbole, en ce 8 janvier, Franz Beckenbauer s'en est allé, rejoindre Ziggy Stardust dans un autre monde. Sepp Maier, ancien gardien du Bayern Munich et proche des Kaiser Franz, avait un jour déclaré « Si Beckenbauer tombait d'une fenêtre, il s'envolerait vers le haut ». L'empereur nous a donc quittés, venant allonger la longue liste des légendes disparues ces derniers temps. Maradona, Pelé, Sir Bobby Charlton, Gerd Müller, Paolo Rossi. Une liste à laquelle est donc venu s'ajouter le Kaiser, et aussi, samedi dernier, un certain Mario Zagallo. Beckenbauer et Zagallo, deux hommes qui auront marqué l'histoire du football, devenant les deux premiers à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Deux destins hors normes, marqués au début de leur vie par des traumatismes. Le traumatisme de la guerre pour le Kaiser, lui qui naquit en 1945, quelques semaines seulement après la fin du conflit mondial, et qui grandit dans un quartier en ruine de Munich et rongé par le poids de l'histoire récente de son pays. Et le traumatisme sportif pour Zagallo. En 1950, alors qu'il parachève son service militaire, le jeune Mario parvient à s'infiltrer grâce à son uniforme dans le stade du Maracana pour la finale de la Coupe du Monde 1950 face à l'Uruguay, pour ce qu'on appellera plus tard le Maracanazo, le plus grand traumatisme de l'histoire du football brésilien. Franz et Mario se font alors eux-mêmes la promesse de redorer l'image de leur pays en liant leur destin à l'histoire de leur nation. Et particulièrement pour le jeune Mario, ce pur carioca va commencer sa carrière en 1948 et égrener une bonne partie des clubs de Rio en franchissant les étapes une par une. Il entame sa carrière à l'America Football Club avant d'aller remporter ses premiers titres à Flamengo. En 1958, à 26 ans, il est sélectionné pour la Coupe du Monde en remplacement de Pep, blessé. Il y jouera tous les matchs et tiendra sa promesse en étant sacré champion du monde dès sa première participation. Quelques semaines plus tard, la petite fourmi, comme on le surnomme à cause de sa petite taille, rejoindra les stars Garrincha, Didi et Nilton Santos à Botafogo, autre club de Rio. Il y gagnera de nouveaux trophées et y construira surtout l'ossature de l'équipe brésilienne de 1962. En juillet 62, justement, Bob Dylan enregistre la chanson Blowing in the Wind, une chanson contestataire qui inspirera grandement le jeune David Bowie, qui lui dédiera une chanson à son nom. Au même moment, Mario Zagallo soulève son second trophée Jules Rimet. En 68, deux ans après la retraite sportive de la petite fourmi, l'Italie remporte l'Euro. Au poste d'arrière-gauche, un certain Giacinto Facchetti révolutionne son poste. Cet ancien attaquant, au style élégant et doté d'une vitesse extraordinaire, a fait le choix quelques années plus tôt de reculer sur le terrain pour mieux lancer les attaques de son équipe. Comme Zagallo, qui délaissa son poste de numéro 10 pour devenir ailier puis milieu dans un rôle plus défensif, et comme Facchetti, qui l'aura grandement inspiré, Beckenbauer change alors sa façon d'être en reculant au poste de libéro qu'il révolutionnera à sa façon. Un repositionnement qui font de Kaiser France une star et la principale attraction de la Coupe du Monde 70. Cette même année, Bowie publie son troisième album, The Man Who Sold the World, qu'il conclut avec le titre de Superman, inspiré directement du romantisme allemand. When all the world was very young, a mountain magic a heavy hung, the Superman would walk in file. Le romantisme, ce mouvement au sein duquel le sentiment l'emporte sur la raison, c'est d'ailleurs peut-être de celui-ci que se sont inspirés les scénaristes de cette Coupe du Monde 70, marquée notamment par le match du siècle, cette demi-finale entre l'Italie et la RFA de France, qui se décidera en prolongation avec un Kaiser avec le bras en écharpe, et 5 buts dans les 30 dernières minutes qui propulseront l'Italie en finale et les Allemands en perdant magnifique. L'Italie qui n'y pourra rien quelques jours plus tard face au Brésil, emmené par un quintet Pelé, Tostao, Rivellino, Gerson et Jairzinho, et alors entraîné par un certain Mario Zagallo. La petite fourmi n'est plus, place désormais au professeur. À la fin des années 70, marqué par son séjour en Allemagne, Bowie publiera les trois albums mythiques Low, Heroes et Lodger, appelés la trilogie berlinoise. De son côté, Franz écrira sa propre trilogie en remportant trois Coupes d'Europe consécutives entre 1974 et 1976, qu'il aurait pu accompagner d'une autre trilogie si la Tchécoslovaquie n'avait pas brisé ses rêves de tripler Euro, Coupe du Monde, Euro en 1976. Une période faste pour Beckenbauer, auquel il ajoutera deux ballons d'or en 72 et 76, et grâce à laquelle il sera désormais auréolé de son statut de véritable starman. Élégant, charismatique, charmeur, anti-autoritaire, mais aussi businessman, Franz est alors le visage de cette nouvelle RFA, celle qui tente d'oublier ses vieux démons. Mais cette année 76 marque aussi celle du déclin pour l'empereur, de plus en plus gêné par des blessures. En bon allemand moderne, il quitte sa Bavière natale pour vivre son American Dream, pour rejoindre le New York Cosmos, où il prend le relais de la légende Pelé. Il s'accommode très vite à sa nouvelle vie chez l'oncle Sam, où il fait fleurir de nouveaux business et en profite pour s'afficher dans les clubs les plus huppés de la Big Apple, notamment au Studio 54, où il côtoiera les grandes stars de l'époque, de Mick Jagger à Donna Summer, en passant par Andy Warhol, et sans oublier évidemment un certain David Bowie, devant lesquels il étalera toute sa fame. Depuis son appartement new-yorkais, situé au-dessus de Central Park, le Kaiser se délecte de sa nouvelle vie américaine. Mais, en 1984, il vole au secours de la mère patrie, défaite en finale du Mondial 82 et humilié à l'Euro 84. Franz délaisse le costume d'empereur pour celui de sélectionneur, et avec son charisme naturel, il mobilise un nouveau groupe de joueurs qui l'emmènera seulement 2 ans plus tard en finale du Mondial 86 au Mexique. Malgré un Euro à domicile conclu par une demi-finale perdue face aux voisins bataves, Franz et son équipe sont du voyage pour la Coupe du Monde 90 en Italie, où un certain Arrigo Sacchi révolutionne le football européen avec son marquage de zone. Malgré un style de jeu inspiré directement des grandes épopées allemandes des années 70, façonné évidemment par le Kaiser et en passe d'être dépassé par cette révolution italienne, la RFA s'en ira tout de même remporter son 3e titre mondial, sous la houlette d'un empereur élevé au rang de dieu. À cette époque, le professeur Zagallo sillonne le ciel, alternant entre des piges au Moyen-Orient et les expériences dans des clubs de Rio. En 1994, il est rappelé en tant qu'adjoint par Carlos Alberto Pereira, nouveau sélectionneur du Brésil, pour apporter son expérience, son côté fédérateur et façonner la doublette offensive Ronaldo-Bebeto. Un mois plus tard, Zagallo remporte son 4e titre mondial, faisant de lui le premier homme à atteindre ce total, un record toujours inégalé. Dans le même temps, Beckenbauer travaille désormais dans les instances du football allemand. À la fois président du Bayern, vice-président de la Fédé allemande et président de la candidature pour le Mondial 2006, il tente, malgré quelques relents conservateurs, de faire redresser le paysage footballistique allemand, depuis dépassé par ses voisins. De Zagallo, l'histoire ne retiendra pas ses brouilles avec Romario, exclu de la Coupe du Monde 98 pour s'être embrouillé avec le vétéran Mario, et l'histoire ne retiendra pas non plus sa décision de faire jouer un Ronaldo extrêmement diminué en finale de la Coupe du Monde 98, sa 5e finale en 7 campagnes. De Beckenbauer, l'histoire ne retiendra que très peu ses aventures extra-conjugales, les accusations de corruption qui furent les siennes en lien avec son poste à la FIFA, ou sa fin de vie compliquée marquée notamment par des problèmes de santé et le décès de son fils. Ce que l'histoire retiendra de ces légendes, c'est cet amour indéfectible pour leur nation, dont ils auront façonné et révolutionné le jeu, et qui les aura élevés, en leurs pays respectifs, au rang de heroes.